Bonjour à tous, bienvenue sur la sixième rencontre de notre parcours Saint-Paul, l'Église et la Croix, et puis le deuxième volet de la Croix à Corinthe. La dernière fois, on a vu que Paul, en réponse au slogan corinthien, répond par en rappelant la mémoire de la croix. Leur enflure, l'enflure dont témoignent les slogans, vient de ce qu'ils ont oublié la véritable histoire de leur fondation. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement, existentiellement, de vivre dans cette mémoire de la croix? En fait, cela signifie vivre comme en exil de ce monde. C'est-à-dire dans une forme de perte de repères par rapport à ce qui, d'habitude, humainement, généralement, fonde une identité. Accueillir la parole de la croix, c'est comme vivre en exil de ce monde. Premièrement, il faut quand même revenir au texte et revoir rapidement l'enchaînement de ces différentes paroles qui se succèdent dans les premiers versets. Je les reprends. D'abord, la première parole, c'est la parole des Corinthiens. Vous la connaissez. Chacun de vous dit « Moi, je suis de Paul, d'Apollos, de Képhas, etc. » Ensuite, il y a la parole de Paul. « J'ai été envoyé, non pas pour baptiser, mais évangéliser. » Non pas dans une sagesse de parole, afin de ne pas vider la croix du Christ. Ensuite, il y a la parole de la croix elle-même, le verbe de la croix, qui pour ceux qui se perdent est une folie, mais pour ceux qui se sauvent pour nous, qui est une puissance de Dieu. Enfin, ce verbe de la croix est lui-même fondé dans une parole plus fondamentale, une parole de l'Écriture qui cite la voix de Dieu. En effet, il a été écrit « Je détruirai la sagesse des sages, c'est Dieu qui parle, l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » C'est déjà tout un enseignement. Au fondement de nos paroles ecclésiales, est-ce qu'il y a une parole plus fondamentale? Quel est le rôle de la parole de Dieu pour éclairer ce que nous disons de nous-mêmes? Mais revenons à la croix. Si nous avions à fonder dans la Bible le fait de la crucifixion de Jésus, si nous avions à en parler, on utiliserait d'autres références bibliques. D'habitude, on pense par exemple au serviteur souffrant d'Isaïe 53. Ce fameux serviteur dont il est dit qu'il n'a plus figure humaine, que son apparence n'est plus belle, n'est plus celle d'un homme. C'est un homme de douleur, familier de la souffrance, qui a été transpercé pour nos crimes. Ou bien on pense à un oracle du prophète Zacharie, que saint Jean d'ailleurs lui-même cite. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Mais Paul, lui, fait entendre une autre parole de Dieu. Une parole qui, vous l'avez entendu, annonce l'écroulement, l'anéantissement de la sagesse et de l'intelligence. D'ailleurs, les questions rhétoriques qui suivent juste après le verset 20 vont dans ce sens. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le chercheur de ce siècle? Répondez, nulle part. Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? Autrement dit, et c'est un enseignement, la croix n'est pas développée en termes de souffrance physique, de douleur, de transpercement, mais comme un chamboulement dans l'ordre de la connaissance. En réalité, si on réfléchit bien, c'est en cohérence avec ce que Paul a développé depuis le début de sa lettre. Au début, il a rendu grâce pour la richesse dont est pleine les Corinthiens, notamment une richesse de paroles et une richesse de science, chapitre 1, verset 5. En même temps, il les a invités à avoir plus d'unité dans ce domaine, ayez le même langage, soyez unis dans le même esprit, la même pensée, chapitre 1, verset 10. À présent, la parole de la croix se manifeste comme une puissance de destruction de l'ordre de la sagesse et de l'intelligence. En un mot, l'enchaînement de ces différentes paroles indique que pour redresser ce qui est défaillant, il faut peut-être d'abord accepter une forme d'écroulement. L'écroulement de quelque chose, peut-être d'une manière de fonctionner, de certaines certitudes. Et en même temps, il y a une logique qui n'est pas nouvelle, puisque Paul indique que cette logique est fondée dans l'Écriture. Évidemment, cela nous conduit naturellement à vouloir approfondir davantage cet oracle d'Isaïe cité par Paul. C'est donc mon deuxième point, l'oracle d'Isaïe, chapitre 29, verset 14, mais il faut prendre l'ensemble de l'oracle, verset 1 à verset 14. Je ne vais pas vous lire le texte, vous l'avez sous vos yeux, mais remarquons que c'est d'abord un oracle de lamentation, plutôt que de malédiction, adressé à Jérusalem, Ariel, malheur Ariel, ville à laquelle David fit la guerre, chapitre 29, verset 1. Et puis l'oracle évoque de manière un peu allusive l'histoire de la ville sainte, le fait précisément qu'elle a été conquise par David au verset 1, Puis il y a eu ce fameux siège de Sennachérib en 701, roi assyrien. Verset 3, « Je camperai en cercle contre toi. J'entreprendrai contre toi un siège. Je dresserai contre toi des retranchements. » Et puis la levée soudaine du siège, c'est attesté historiquement, sans qu'on comprenne pourquoi. Versets 6 à 8, « Soudain, en un instant, tu seras visité par le Seigneur Sabaoth. Ce sera comme un rêve, une vision nocturne, la horde de toutes les nations en guerre contre Ariel. » Mais le plus marquant de cet oracle, ce sont les accumulations d'images qui visent à parler de l'incompréhensibilité de l'agir divin. Ces images qui se succèdent comme celles du rêve, de l'ivresse, de l'aveuglement, du livre scellé. L'agir de Dieu est comme un rêve, le rêve de l'affamé. Il mange, puis il s'éveille, l'estomac est creux. C'est comme un aveuglement, une ivresse. Soyez stupide, stupéfait. Devenez aveugle et sans vue. Soyez ivre, mais non de vin, titubant, mais non de boisson. C'est un aveuglement, car le Seigneur a répandu sur vous un esprit de torpeur. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. C'est un livre scellé. Et toutes les visions sont venues en un mot comme un livre scellé, que l'on remet à quelqu'un en disant « lis », mais il lit, il répond « je ne puis pas, car il est scellé ». Bref, le verset cité par saint Paul vient à la fin de cette unité littéraire, l'oracle d'Isaïe, comme un sommet, un climax, la cerise sur le gâteau. Au verset 13 et 14, lisons-les, le Seigneur d'abord adresse, renouvelle des reproches à Jérusalem. Je cite ici la version grecque. « Le Seigneur a dit, ce peuple s'approche de moi. De leurs lèvres, ils m'honorent, mais leur cœur se tient loin de moi. C'est en vain qu'ils me vénèrent, enseignant des préceptes et des leçons d'hommes. » Et ensuite, le Seigneur, au verset suivant, annonce ce qu'il va faire. « C'est pourquoi, voici moi. Je vais continuer à déplacer ce peuple et je le déplacerai. Je ferai périr la sagesse des sages et je dissimulerai l'intelligence des intelligents. » Paul cite donc la finale d'une parole de Dieu qui elle-même vient au terme d'un oracle dont la note principale est celle de la déroute, de plus en plus grande. Plus Dieu agit, plus le peuple s'éloigne et moins il comprend. Alors creusons un peu cela. En fait, le reproche formulé au verset 13 est connu des auteurs du Nouveau Testament. Par exemple, Jésus, dans l'évangile de saint Marc, le dit à l'adresse des pharisiens, dans une question sur le pur et l'impur. « Isaïe a bien profité sur vous, hypocrite. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Ici, en 1 Corinthiens, nous sommes dans un autre contexte. Mais peut-être que s'il fallait trouver un point commun à ces deux contextes, c'est celui de la nouveauté. Une nouveauté tellement nouvelle qu'elle déroute. La nouveauté de Jésus sur le pur et l'impur, les pharisiens ne comprennent pas. La nouveauté que Paul annonce, un Messie crucifié, tellement déroutant par rapport aux critères de reconnaissance humaine. Et puis il y a ce thème de l'éloignement du cœur et des lèvres, de sorte que ce qui sort des lèvres n'a plus profondeur. À force de toutes ces règles de pureté, le cœur des pharisiens est loin de Dieu. Et c'est aussi le cas à Corinthe. Les fameux slogans corinthiens, au fond, ne disent pas la vérité de leur fondation. Lorsque Paul, au chapitre 3, verset 4, reformulant les slogans, dira « Mais n'êtes-vous pas des hommes ?» On peut y voir, ce n'est pas impossible, un écho à la formule d'Isaïe. Lorsque Isaïe dit « Enseignant des préceptes et des leçons d'hommes. » Dans ce contexte de déroute, face à la nouveauté et d'éloignement, la décision divine est vraiment stupéfiante. Pardon. Au verset 14, il y a comme trois petites parties. D'abord, une introduction solennelle. « C'est pourquoi, voici moi, dit le Seigneur. » L'annonce de l'exil. « Je vais continuer à déplacer ce peuple et je le déplacerai. » Et puis, la traduction du point de vue de la sagesse, cette expérience de l'exil. « Je ferai périr la sagesse des sages. » Et l'intelligence des intelligents, je la dissimulerai. Paul cite donc la toute fin d'un oracle, il l'intensifie. Il dit pas seulement « je dissimulerai », mais « je rejetterai l'intelligence des intelligents. Mais on peut penser légitimement qu'il a à l'esprit l'ensemble de l'oracle. De même qu'au début de l'oracle, il y a toute une allusion à l'histoire de Jérusalem. De même, Paul va faire une sorte de résumé de l'histoire du salut. On le voit au verset 21 à 25, spécialement au verset 21. « Puisque le monde dans la sagesse de Dieu n'a pas reconnu Dieu dans sa sagesse, alors il a plu à Dieu de sauver les hommes, les croyants, par la folie du message. » Voyez, moins on comprend, moins les hommes comprennent, et bien plus Dieu intensifie son action étonnante. De même, dans le contexte de Jérusalem, au 7e, 6e siècle, la tentation de Jérusalem, de Judas, a été en fait d'agir humainement, de faire des alliances, de renforcer ses fortifications, de se reposer sur des pseudo-oracles rassurants. Mais tout cela a été vain. Dieu a répondu en envoyant le peuple en exil pour qu'il réfléchisse plus profondément à sa véritable identité, non pas fondée dans ses pseudo-alliances de sécurité, mais dans le choix même de Dieu. Paul reconnaît cette manière de faire à Corinthe, la même logique de la croix. Moins l'homme comprend, plus Dieu se fait incompréhensible. La prédication du crucifié est le sommet de cet inouï divin. Pour reprendre les images d'Isaïe, effectivement, la croix donne la berlue. Elle est comme un cauchemar, une mauvaise ivresse, un livre scellé, un aveuglement total de l'intelligence. Elle est une mise en exil. Un exil de la pensée qui ne comprend plus. Un exil de nos sécurités humaines, par lesquelles d'habitude nous donnons l'impression d'exister. Un exil d'un certain conformisme social qui en réalité éloigne le cœur de Dieu. C'est donc une découverte importante que nous fournit la clé d'Isaïe sur laquelle il nous fait méditer. Qu'est-ce que ça veut dire vivre comme en exil du monde? Et en fait, la réponse est chez Paul. Car après avoir développé un peu cette histoire paradoxale du salut, il dit aux Corinthiens, mais regardez votre appel. Et je cite les versets 26 à 29. Regardez votre appel, frère. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens de bonne naissance. Mais ce qui est fou dans le monde, Dieu l'a choisi pour couvrir de honte les sages. Et ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour couvrir de honte les choses fortes. Ce qui est sans naissance, ce que l'on méprise, Dieu l'a choisi pour réduire à néant ce qui est, afin qu'aucune chair ne se vante devant Dieu. Autrement dit, la sagesse paradoxale de Dieu, la sagesse de la croix, est à l'œuvre à Corinthe, spécialement dans son appel. Or, l'appel, c'est le principe constitutif de l'Église. L'appel klesis en grec, l'Église ecclesia, ce qui jaillit, ce qui est appelé hors d'eux. Les critères d'appartenance à l'Église ne sont pas ceux du monde, qui d'habitude recherche de la reconnaissance dans la sagesse, dans la puissance, dans la richesse, dans la bonne naissance. Or, la logique divine coupe l'herbe sous les pieds à cette dynamique très humaine par laquelle l'homme cherche d'habitude à être reconnu, à être quelqu'un socialement. L'Église, rappelle Paul, n'est pas fondée là-dessus. Et donc, l'Église ne peut pas s'édifier selon cette logique. Les relations intra-ecclésiales ne peuvent pas être une carrière, un cursus honorum, une recherche de l'honneur. Chose que d'ailleurs semble se discerner derrière les slogans corinthiens. Mais cette manière d'être de l'Église, c'est une mission pour le monde. Car Paul enchaîne, hein, « afin de couvrir de honte les sages, les choses fortes, afin de réduire à rien ce qui est. » Les expressions sont fortes, puisqu'on parle de destruction. En fait, elle trouve dans la métaphore de l'exil une clé d'interprétation. L'Église pourrait être aux yeux du monde aussi incompréhensible que la faillite de l'exil l'a été pour Israël. Et déjà, on entrevoit comme une mission pour l'Église. L'Église va être fidèle à cela, ne pas reposer sur des critères humains, des critères mondains, pour dire quelque chose au monde. Peut-être pour que la logique du monde s'en trouve elle-même déstabilisée. Le Concile Vatican II a une formule extraordinaire sur la définition d'Église. Il dit dans son premier chapitre de Lumen Gentium, l'Église dans quelque sorte dans le Christ, le sacrement, le signe et le moyen de l'union à Dieu et de l'unité du genre humain. Mais si l'Église se noie dans la mentalité mondaine, elle n'est plus signe de rien. Évidemment, c'est un grand défi. Souvent, l'Église ressemble au vilain petit canard du conte d'Andersen. Vous savez, ce signe magnifique, qui évidemment qui est en tant petit un vilain petit canard noir, et qui cherche sa place dans la basse-cour. Mais cette basse-cour, c'est un petit monde clos sur lui-même. Il ne trouve pas sa place. De même, l'Église, si elle cherche à être dans le monde, dans le petit monde de la basse-cour, eh bien, elle ne le trouve pas. Elle demeurera un signe de contradiction, d'incompréhension, parfois une provocation. Il faut qu'elle accepte d'être fidèle à ce qu'elle est, d'être fondée sur le Christ, pour pouvoir s'envoler. Et c'est ce que Paul conclut, de sorte qu'aucune chair, qu'aucun homme, ne se vante devant Dieu, ou plus positivement, verset 31, afin que, selon ce qui a été écrit, celui qui se vante, qu'il se vante dans le Seigneur. Un mot de commentaire sur ce thème de vantardise. En fait, c'est la recherche de reconnaissance sociale. Tout homme cherche à être reconnu, être quelqu'un. Dans le monde antique, très structuré par l'honneur, il cherchera à acquérir davantage d'honneur. Cet honneur qui mesure en quelque sorte ta place dans la société. Pour avoir une meilleure place, on fera des actions qui, selon les critères des valeurs établies dans ce monde, eh bien, seront reconnues. Des actes de bravoure, de justice, de puissance, d'accroissement de richesse. Et ils s'en vanteront. Ils chercheront que ces actions soient connues, reconnues, pour grandir aux yeux des autres. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sont devenus les grands lieux où se construit l'image sociale d'une personne. L'expérience chrétienne, elle, fonde la reconnaissance et par suite l'identité ailleurs, dans le Seigneur, dans l'expérience d'un appel. Évidemment, lorsque le Seigneur qui appelle est un Messie crucifié, eh bien, cela chamboule beaucoup de choses. En résumé, Paul fait écho à l'épisode de l'exil comme une métaphore puissante pour parler de la croix. Une facette de la croix, c'est cette expérience de ruine, de destruction, de ce par quoi on cherchait à être quelqu'un. L'accueil de la croix ne se fait pas sans ruine. Et je pense que c'est très éclairant pour l'Église aujourd'hui. Beaucoup de choses s'écroulent. Ce n'est pas forcément un drame. Gardons-nous de vouloir reconstruire trop vite, tout comme avant. Peut-être qu'une condition préalable, c'est de nous asseoir dans ces ruines et d'accueillir la grâce de Dieu, la puissance de l'Esprit dont parle saint Paul. Je voudrais, pour illustrer cela, vous faire une brève citation d'un auteur spirituel, Don Louf, un ancien père abbé d'une abbaye cistercienne, qui justement explique que pour vivre au gré de la grâce de Dieu, il ne faut pas vouloir se construire par soi-même, ni être un pécheur endurci, ni même un juste endurci, mais en état de conversion. Et il arrive, dit-il, que parfois, eh bien, des choses doivent s'effondrer. Et cet écroulement n'est qu'un commencement, mais plein d'espérance. Il ne faudra surtout pas essayer de rebâtir ce que la grâce a démoli. C'est là encore quelque chose que nous devons apprendre, car la tentation est toujours grande de monter quelque échafaudage devant la façade branlante, et de se remettre au travail. Nous devons apprendre à demeurer auprès de nos ruines, à nous asseoir dans les décombres, sans amertume, sans nous adresser de reproches, mais aussi sans accuser Dieu. Il nous faudra nous appuyer contre ces murs en ruines, pleins d'espérance et d'abandon, avec la confiance d'un enfant qui rêve que son père raccommodera tout. Car il sait, lui, comment tout peut être rebâti autrement, bien mieux qu'avant. Ce que Don Louf dit de l'itinéraire personnel, eh bien, Paul le dit de l'Église. Évidemment, il y aura toujours un va-et-vient entre des personnes qui incarneront personnellement la logique de la croix et l'ensemble du corps ecclésial. En fait, cette union spécifique à la croix, c'est spécialement le rôle des pasteurs. Et c'est pour ça que nous verrons la prochaine fois dans l'Épître aux Galates, en voyant comment Paul se présente lui-même comme un apôtre crucifié. Pour l'heure, essayons de réfléchir comment fonder son identité dans le Seigneur. Je propose deux questions. La première, c'est, ai-je déjà vécu une expérience d'exil, d'étrangeté, Peut-être simplement le fait d'être en décalage par rapport aux valeurs d'un groupe donné. Comment est-ce que j'ai réagi? En quoi la croix peut-elle éclairer à présent ces situations? Et puis, sur quelles valeurs trop mondaines, comme la compétition, le paraître, l'efficacité, les réalités d'église auxquelles j'appartiens sont parfois tentées de s'aligner? Ou à contrario, quelles valeurs proprement évangéliques témoignent ces mêmes réalités d'église? Comment promouvoir les secondes et comment peut-être désactiver les premières? Bonne méditation.